Donc la parole maintenant à Juliette Denis. Alors c'est vrai que ça rappelle des souvenirs parce que le projet est né en 2006 et la première enquête qui était pour nous une enquête pilote, c'était justement en Lettonie avec Juliette Denis, Martha, moi, Alain est venu également. Voilà, donc ça me rappelle de très très bons souvenirs. C'était une période très laboratoire. Donc Juliette Denis, maintenant qui est doctorante au CERSEC, va pouvoir introduire justement le témoignage de Sylvain Linarté en proposant de réinscrire cet itinéraire de vie, ce récit de vie dans l'histoire plus large, bien sûr, dans le contexte historique letton.
Merci beaucoup Valérie, et puisqu'apparemment c'est une rencontre pendant laquelle les historiens s'autorisent à être un peu émus, j'aimerais dire à quel point je suis contente d'être là avec les coordinateurs du projet, les membres du projet, nos partenaires de RFI et évidemment nos témoins, incarnés ici par Sylvain Linarté, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Alain Blum et moi-même avons rencontré Sylvain il y a 3 ans, dans une ville qui s'appelle Daugavpils, qui est la capitale régionale de la Latgale, une région qui se situe au sud-est de la Lettonie et dont Sylvain est originaire. Nous étions accueillis par une historienne de l'université régionale, Irénée Salienietse, dont l'aide se révéla fort précieuse pour notre enquête durant toute la durée du projet. Cette dernière avait convié, dans un petit bureau du département d'histoire, les 2 Français armés de leur matériel audiovisuel très encombrant, quelques étudiants et bien sûr Sylvain, qui avait eu la gentillesse de venir à nous depuis chez elle, à quelques kilomètres de Daugavpils. Malgré le manque d'espace et les contraintes techniques, l'atmosphère fut immédiatement détendue, et cela prouve bien que ce que disait ce matin Valérie Nivelon est tout à fait juste, les contraintes techniques peuvent devenir un avantage, mais la plupart du temps, surtout, elles s'oublient. Et Sylvain a raconté son expérience à ce moment-là pendant près de 3 heures. Comme tous ceux que nous avons rencontrés, Sylvain a une biographie exceptionnelle et en même temps tellement imbriquée dans l'histoire de la Lettonie depuis 1939. Sans dévoiler les moments les plus extraordinaires, les plus touchants et les plus intenses du récit de Sylvain, que jamais je ne saurais répéter aussi bien qu'elle le fait, l'objectif est ici de replacer son histoire dans le contexte des grands bouleversements de l'histoire de la Lettonie depuis les années 40, mais aussi dans le contexte actuel de production de l'histoire et de discours sur l'histoire dans la Lettonie contemporaine. Rappelons donc brièvement, premièrement, les grandes fractures connues par la Lettonie et l'espace balte, qui furent toutes profondément liées à la Seconde Guerre mondiale et à ses conséquences, et dont l'histoire de Sylvain nous révèle chaque étape. Ancienne province de l'Empire russe, le territoire letton gagna son indépendance au terme de la Première Guerre mondiale et des conflits qui lui succédèrent immédiatement à l'Est. Dans les années 20 et dans les années 30, elle constituait l'un de ces jeunes pays européens dont l'indépendance était garantie par l'ordre de Versailles. Dans les années 30, cependant, les tensions intérieures et extérieures provoquent la montée d'un régime nationaliste et surtout, l'autonomie du pays apparaît de plus en plus précaire. Après quelques mois d'échecs de négociations internationales et d'angoisses grandissantes parmi les peuples de l'Est, l'URSS et l'Allemagne nazie signent finalement, le 23 août 1939, le fameux pacte Ribbentrop-Molotov qui autorise le déclenchement du conflit en Pologne. Les clauses secrètes du pacte germano-soviétique entraînent des bouleversements territoriaux majeurs pour la souveraineté des États. Notamment, plusieurs territoires passent sous la domination soviétique. En 1939, seule la Pologne orientale est concernée par ce démembrement et les États baltes restent indépendants jusqu'en 1940. C'est finalement la défaite de la France sur le front de l'Ouest qui fragilise l'Europe et qui démontre en même temps la puissance des armées nazies, qui décide Staline à intégrer de force les 3 États baltes à l'Union soviétique. Ils constituent malgré eux une barrière défensive frontalière qui doit permettre à l'URSS de se défendre d'une éventuelle agression nazie. Commence alors, en été 1940, une année de soviétisation où sont appliqués en Lettonie, comme dans les 2 autres États baltes, certains modèles politiques, économiques, juridiques, policiers, qui prévalaient jusqu'alors en URSS stalinienne. À cette époque, Sylvain a à peine 2 ans. Elle fait justement partie de l'histoire de ces enfants dont parlait ce matin Anne-Marie, de ces enfants qui, à l'époque des faits, avaient à peine les moyens de comprendre ce qui se passait. Sa famille vit dans la Latgale, une région plutôt défavorisée par rapport au reste du pays, mais qui constitue par excellence ses marges est-européennes où se mêlent plusieurs nationalités, lettons, russes, latgaliens, polonais, juifs, et où se mêlent aussi plusieurs religions et plusieurs langues. En 1940-1941, la famille est témoin des arrestations ciblées menées par le NKVD. Elle craint pour son futur, mais pour le moment, elle n'est pas inquiétée. Parallèlement, le NKVD prépare une grande opération destinée à éradiquer les ennemis issus du précédent régime, c'est-à-dire les élites politiques, économiques, sociales, qui détenaient le pouvoir en Lettonie indépendante. Cette opération a lieu en Lettonie le 14 juin 1941. Le père de Silva est arrêté et condamné à une peine de travaux forcés. Silva, sa mère et ses sœurs sont reléguées quant à elles dans les terres reculées de Sibérie, dans la région de Krasnoïarsk. La famille est victime, comme 15 000 autres personnes en Lettonie, de cette fameuse opération du 14 juin. Dans la terminologie soviétique, je le rappelle, ces exilés déplacés en Sibérie prennent le nom de déplacés spéciaux qui sont assignés à résidence dans des villages sibériens. L'histoire de la Lettonie continue malgré tout, malgré cette opération, puisque une semaine à peine après cette déportation, qui a provoqué un profond traumatisme parmi les témoins de la répression politique, l'Allemagne nazie envahit l'URSS. Elle occupe une vaste zone occidentale et méridionale de l'Union soviétique, dont la Lettonie, où, je le rappelle, le pouvoir soviétique avait été liquidé en à peine 2 semaines. C'est une période dont on ne parlera pas, mais qui est également très complexe et très sombre pour l'histoire lettonne. Du point de vue des Lettons, évidemment, une occupation en remplace une autre. Les nazis remplacent les soviétiques. L'occupation nazie en Lettonie se traduit par des répressions contre les rares communistes lettons, la création de camps destinés à certains civils et à certains prisonniers de guerre, et surtout, elle est marquée par la précocité, la rapidité et la quasi-exhaustivité de l'extermination des Juifs dans des massacres impliquant des franges de la population locale. Mais pour le moment, Silva et sa famille n'ont pas idée des réalités de l'occupation allemande et n'ont certainement pas les moyens de s'en préoccuper. Silva nous révèle une toute autre histoire de guerre, une toute autre histoire de la Lettonie soviétique et de ses habitants. Elle raconte la survie des déportés lettons dans l'Union soviétique non occupée, loin de l'invasion allemande, mais en subissant néanmoins les conséquences de la guerre. C'est l'histoire de l'exil forcé. Dans des contrées et des sociétés sibériennes déjà pauvres avant la guerre, mais encore plus fragilisées par le déclenchement du conflit. À cette époque, toute la population soviétique connaît la faim, les maladies, le manque de biens de première nécessité, la désorganisation des systèmes scolaires et médicaux, ou encore la pression accrue s'exerçant sur les travailleurs. Mais évidemment, pour les déplacés spéciaux, tous ces phénomènes sont encore plus épouvantables. Ils sont privés de certains droits. Ils sont privés des ressources nécessaires, ils n'ont pas de recours, pas de réseau dans les villages sibériens. Ce que raconte Silva, c'est une histoire de survie, d'adaptation, de solidarité, dans des circonstances particulièrement dures et encore plus dures du fait de la guerre. En mai 1945, l'URSS a reconquis tous les territoires occupés et en Lettonie, le pouvoir soviétique est restauré comme ailleurs. Rappelons donc que le pays, la Lettonie, aura connu en moins de 4 ans 3 changements de souveraineté, de l'indépendance au régime soviétique, du régime soviétique à l'occupation allemande, puis de nouveau à la reconquête soviétique. Évidemment, le pays en entier sort victorieux de la guerre et devient une grande puissance, mais la situation intérieure est catastrophique. Il faut compter 25 millions de morts, des destructions sans précédent dans les territoires occupés, et des menaces de famine qui continuent à planer sur de larges catégories de la population soviétique. Parallèlement, de très nombreuses franges de la population espèrent une libéralisation du régime. Et c'est le cas aussi des déplacés spéciaux. En 1945, on espère l'éventualité d'une libération et d'un retour chez soi. Aucun des changements désirés n'aura lieu. Comme on le sait, le régime stalinien s'est au contraire rendurci à partir de 1946-47. Et pourtant, dans ces conditions, Silva et ses sœurs reviennent en Lettonie. Le retour de 1300 enfants lettons et de 300 enfants estoniens constitue un épisode totalement atypique de l'histoire des déportations staliniennes. C'est un épisode qui découle d'un mélange d'initiatives personnelles, de soutien des autorités soviétiques lettonnes, d'arrangements ou d'indifférences des autorités centrales. Bref, un épisode exceptionnel que Silva, je l'espère, va vous narrer. Mais l'histoire de Silva, après son retour, n'est pourtant pas terminée. Le pouvoir soviétique a beau avoir été rétabli en Lettonie, il fait face cependant à de très fortes contraintes, c'est-à-dire aux cicatrices de l'occupation allemande et de la collaboration, et surtout à une forme inédite de résistance antisoviétique. Des groupes armés clandestins harassent les représentants locaux du pouvoir, et dans certains districts, ils causent des dommages matériels et humains significatifs. Même si la situation en Lettonie n'atteindra jamais les violences de quasi-guerre civile qui ont marqué la Lituanie ou l'Ukraine de l'Ouest, il n'en demeure pas moins que la « lutte contre le banditisme », entre guillemets, pour reprendre la terminologie soviétique, a profondément marqué la période d'après-guerre en Lettonie. Ses conséquences se manifestent pour l'ensemble de la population. Les autorités soviétiques se méfient tout particulièrement des populations rurales, mais aussi des anciens ennemis qui auraient échappé à la répression ou qui seraient réapparus dans la société. Et c'est donc une deuxième déportation qui est planifiée et qui a finalement lieu en mars 1949, afin de régler définitivement les troubles à l'intérieur du pays. Sylva et sa famille, sa maman a réussi à rejoindre ses filles en Lettonie, croient d'abord y échapper, mais elles subiront, comme beaucoup d'autres franges de la population, les conséquences de cette seconde vague de répression. De retour en Sibérie, alors. Certes, les conditions de vie, de liberté y demeurent rudimentaires, mais par rapport aux années de guerre, le niveau de vie a augmenté. En 1956, après la mort de Staline, des libérations massives de prisonniers et d'exilés sont décidées, et Sylva rejoint alors la Lettonie, et il y commence une autre vie. Mais l'expérience sibérienne, comme pour l'ensemble des déportés, reste à jamais gravée en elle. Sans haine, sans rancœur, en en faisant presque une seconde patrie, mais néanmoins comme une part indissociable de son identité. Sylva nous a raconté son histoire donc en janvier 2009. Auparavant, elle avait déjà accordé des interviews à d'autres enquêteurs lettons. Et cet intérêt pour la vie de Sylva, comme pour d'autres enfants déportés, témoigne de l'importance de ces thématiques dans la Lettonie contemporaine. Rappelons que dans les États baltes, dans les républiques baltes d'ailleurs, à l'époque où elles étaient encore membres de l'URSS, la dénonciation du stalinisme fut précoce et fut l'un des facteurs de dislocation de l'URSS avant même 1991. Depuis la chute de l'URSS, de nombreuses institutions historiques, des musées, des journées commémoratives, des monuments témoignent de l'importance accordée à la mémoire du stalinisme. La production historique participe à ce phénomène mémoriel qui dépasse largement les frontières de l'histoire pour être un véritable phénomène social et politique. Puisque des historiens locaux ou des historiens revenus des migrations publient des sources et des ouvrages scientifiques et mènent aussi, dans leurs institutions, des recueils de témoignages d'anciens déportés. Ces initiatives ne sont certainement pas exemptes des retombées des violentes controverses qui traversent le pays et opposent régulièrement la Lettonie et la Russie sur des thématiques historiques. En Lettonie, comme dans beaucoup de pays de l'Est, l'histoire contemporaine est l'objet de débats agressifs et médiatisés. Par exemple, depuis ces 6 dernières années, les exemples de clash entre la Lettonie et la Russie sur des questions d'histoire abondent. Dans ces débats, on remarque que c'est surtout l'interprétation de l'occupation allemande, de la collaboration, mais aussi de la libération du territoire par l'armée rouge, qui est considérée par les populations locales comme une réoccupation, qui apparaissent le plus souvent. Ce sont donc des thématiques plutôt liées aux années de guerre elles-mêmes. Mais les secousses de ces très violentes controverses atteignent la mémoire du stalinisme. Faut-il pour autant s'en étonner ? Ce n'est pas si certain. Les excès apparents des expressions mémorielles constituent aujourd'hui l'ombre portée d'un siècle de bouleversements politiques et de désastres humains d'une ampleur considérable. Les témoignages, qu'ils soient accordés à des historiens nationaux ou internationaux, participent aussi de ce phénomène. Pour nous, les historiens occidentaux, tenter de les comprendre, autant que de comprendre les faits historiques eux-mêmes, constitue une tâche complexe et souvent très difficilement soluble. Mais grâce à ceux qui, comme Sylva, offrent leurs témoignages avec honnêteté et avec simplicité, des possibilités de rentrer dans la complexité de l'histoire et de la mémoire nous sont offertes. En conclusion, que nous révèle le témoignage de Sylva ? Pour l'historien, son expérience est évidemment passionnante et exceptionnelle. Sylva a connu les deux grandes déportations de l'espace balte, en 1941 et dans les suites de 1949 en 1950. Elle a connu des phases de retour inattendues et des formes d'adaptation à chaque déplacement, dans un sens ou dans un autre. Ces expériences plurielles, d'exil et de retour, expliquent ainsi la richesse de son récit. Les trois dimensions de l'histoire de Sylva, qu'il s'agisse de son histoire personnelle, de son histoire familiale ou encore de l'histoire de la Lettonie soviétique, se répondent l'une à l'autre. Mais la force du récit provient également de la générosité avec laquelle elle nous le livre. Rappelons que Sylva a décidé, après sa libération, de devenir artiste, qu'elle peint, qu'elle a été designer et que peut-être la force de ses images dans son récit permet de contourner l'instrumentalisation politique de son histoire. Et cette générosité, elle nous le prouve encore aujourd'hui en venant ici raconter, une fois de plus, son incroyable parcours. Merci.